Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Maïdéléo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes mardi 17 décembre 2024, il est 6h15, place au journal sur Radio Maïdéléo. Sommaire, 12 jours déjà qu'aucun véhicule n'est arrivé à Mwenga Centre suite au délabrement avancé de la route nationale numéro 2. Les véhicules sont bloqués dans les bourbiers à différents endroits dont Mzele, Misela et Kibumba. Dans la zone de santé de Mitimuresa, la deuxième phase de vaccination contre la varole du singe, Monkeypox, démarre ce mardi 17 décembre 2024. Cette campagne va se dérouler dans les 22 aires de santé qui composent cette zone pendant 10 jours. Dans la page éléments des reportages, vous allez suivre le député national Olive Moudé-Kereza qui plaide pour la modernisation des infrastructures afin de bénéficier de certaines opportunités comme d'autres pays de la sous-région des Grands Lacs. Voilà tout pour les titres. Hélène Boudjiriri, c'est mon nom, Emile Mouindo sur la mise en onde. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est la radio Maïndéléo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Débutons par cette information. Le mouvement citoyen Obapé GRDC Noyo Dirambikatana plaide pour le remplacement des militaires commis dans cette partie du sud que vos recommandations formulées après avoir constaté les dérapages caractérisés notamment par des tracasseries contre les populations, les violations des droits humains et l'immixtion dans les affaires civiles. Le dernier cas est celui survenu dimanche dernier lorsqu'un militaire de ces bataillons est tenté ravir des biens à un jeune de la place face à sa résistance. Ce militaire a ouvert le feu et les garçons ont été sauvés de justesse suite notamment à la clameur publique. Ronsard Boufolé, militant de ce mouvement citoyen à Katana, rappelle que des actes similaires ont été également enregistrés à Bougoré et Miti, d'où l'appel à l'implication des autorités. On l'écoute.
C'est encore un autre jeune leader qui venait d'échapper d'une tentative d'assassinat. Et ici, un groupement Dirambikatana. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps qu'un père de famille a été lâchement assassiné à Kahungu et Kavum par ces mêmes guépards et deux autres tués lors d'une marche pacifique. C'est ainsi que le mouvement WAPGRDC condamne cet unième cas de tentative d'assassinat qui s'est produit en groupement Dirambikatana et qui s'est déjà produit à Bougoré et Miti. Ainsi, demande les remplacements sans délai de ces militaires qui sont terreur et désolation dans les chefs de la population.
Entre-temps, c'est depuis 12 jours qu'aucun véhicule n'est arrivé à Mwenga Centre dans le territoire qui porte les mêmes noms. Ceci suite au délabrement avancé de la route nationale numéro 2 Bukavu-Walungu-Mwenga. Tous les véhicules en provenance de Bukavu pour Mwenga sont bloqués à différents endroits où les bourbiers bloquent toute circulation. C'est notamment au niveau de Munzele, à environ 5 km de Mwenga Centre, à Misela, dans la chefferie de Luindi, à plus ou moins 10 km de Kibumba ou un autre bourbier bloque toute circulation pour l'instant. Des centaines de véhicules sont bloqués sur plusieurs endroits de cette route, occasionnant ainsi des conséquences, notamment la hausse des prix à Mwenga Centre, à Kamituga, Kitutu et Lugushwa. Notre correspondant de l'axe Kamituga, Jean-Nondo Mukambilwa, nous en dit plus.
Il faut plus ou moins 100 dollars pour effectuer un voyage aller-retour Bukavu-Kamituga. La mauvaise état de la route nationale numéro 2 transo Bukavu-Mwenga-Kamituga qui tout laisse à désirer. Abandonner à ce triste sort, cette route d'intérêt national semble être aujourd'hui à la base de la misère des habitants de ce territoire. Les chauffeurs et la population locale ainsi que tout autre bénéficiaire de cette route d'intérêt national appellent le gouvernement de leur venir en aide en réhabilitant cette route.
Et il y a même du mal d'amener les malades de Mwenga vers la ville de Bukavu pour les traitements. Les gens meurent, mais le gouvernement congolais, c'est dans ce sens que nous lui rappelons, à venir réhabiliter, si pas asphalter la route nationale numéro 2. Malheureusement, la volonté n'y est pas, c'est pourquoi nous revenons encore et les rappeler. La population territoire de Mwenga fait partie de la population congolaise. Les budgets que le Congo reçoit à travers les paiements des taxes, les sites qui vous siègent, les gens de Mwenga paient aussi. aussi, nous devons la route pour, en termes de redevabilité, par rapport à notre besoin, nous, en tant que peuple du territoire de Mwenga.
De Mwenga, chef du territoire, Jean-Ondo, Prado Mendeléo.
Merci à vous, Jean-Ondo. Exactement 6h19 minutes dans le studio de Radio Mendeléo. La suite de cette édition, c'est juste après cette courte pause.
Suivez Radio Mindeléo en direct partout dans le monde sur www.radiomindeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Mindeléo. Radio Mindeléo, c'est vous.
Nous allons maintenant parler santé. La deuxième phase de vaccination contre la varole du singe en pox dans la zone de santé Mitimoressa démarre ce mardi 17 décembre. La campagne ira jusqu'au 26 décembre, soit 10 jours, et concerne uniquement les personnes qui ont reçu les doses lors de la première campagne en octobre dernier, évaluée à plus de 10 300. La précision est du docteur Serge Mouniaou, médecin-chef des zones de santé Mitimoressa, dans un entretien avec Radio Mayendeléo. Il ajoute que la campagne va se dérouler dans les 20 aires de santé qui composent la zone de santé Mitimoressa avec une stratégie fixe, même s'il y aura par moment des déplacements des vaccinateurs vers la cible qui est bien identifiée. Docteur Serge Mouniaou en parle.
Ça ne sera pas la première dose, la deuxième dose, et que les mêmes personnes qui ont été vaccinées au premier passage, ils ont eu des jetons, ils sont dans les registres, et que au deuxième passage, nous les exhortons de passer dans les aires de santé. Il y aura un site qui vont installer, les acteurs vont les attendre pour qu'ils soient vaccinés. La stratégie que nous allons mettre en place, c'est la stratégie fixe. On pourra aussi aller en stratégie avancée, même en stratégie mobile. Nous avons 22 sites, il y a des aires de santé, il n'y aura pas de site.
Docteur Serge Mouniaou ajoute que les principales cibles sont les personnes de plus de 18 ans, les prestataires des soins, les professionnels des sexes, les personnes qui ont eu des contacts avec les malades, particulièrement les gardes des malades. Restons sur l'axe avec le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, qui vient d'écrire au vice-premier ministre et ministre national de la Défense au sujet du terrain des Amsar qui abritait les contingents chinois de la MONUSCO, terrain situé sur la route des Moudaka avant la bifurcation des Kalambo à Kabaré. En effet, Bahati Lukwebo demande au vice-premier ministre de Défense Guy Mwandiavita de libérer ce terrain qui est de la société Interlac, propriétaire du terrain Amsar, qu'il avait donné en location à la MONUSCO durant 20 ans et qu'il a retourné à son propriétaire le 1er juillet 2024. Lukwebo est surpris d'apprendre que le ministre... que le ministère national de la Défense a donné instruction au général Avul Ngol Yav, commandant 33e région militaire Bukavu, de continuer à garder sur les 10 terrains des engins de génie civil destinés au gouvernement provincial. Le directeur général d'Interlac rappelle avoir écrit à 2 reprises sans la moindre réaction. Pourtant, selon nos sources, les travaux de construction d'un grand centre de formation avec l'accompagnement des Enabel ont été lancés le 12 décembre 2024 sur le même site et le démontage des containers laissés par la MONUSCO avait débuté sur les sites. Parlons autre chose à présent sur base du rapport de la coordination de la lutte contre la fraude, la corruption et tracasserie en Provence. Le gouverneur de Provence, le professeur Jean-Jacques Pourroussi, a ordonné l'évacuation aux Rosizi 1er et 2 des services non habilités et qui tracassent la population. L'opération a été menée en collaboration avec les ministères de l'Intérieur et va se poursuivre non seulement dans la ville de Bukavu, mais également dans tous les territoires de la Provence. L'objectif, à en croire les coordonnateurs de la cellule contre la fraude Zagabé Matumwabiri, est de lutter contre les tracasseries dont sont victimes les assujettis de la part des différents services non habilités. Déjà, hier lundi, cette opération a été menée aux frontières aux Rosizi 1er et 2 par la coordination de lutte contre la fraude, la corruption et tracasserie en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Question de faire appliquer la décision du gouverneur des provinces, à en croire les coordonnateurs Zagabé Matumwabiri. Dans les mêmes ordres d'idées, En compagnie du ministre des Finances, il a été constaté que certains agents affectés à certains postes de contrôle pour les bouclages se font corrompre par les propriétaires des véhicules sans documents. Déjà, certains de ces agents sont aux arrêts et le ministre met en garde les propriétaires des véhicules qui s'adonnent à cette pratique. Ces derniers sont appelés à se mettre en ordre pour éviter toute tentative de corruption des agents commis à ces points de contrôle. Avec vous, Mapendo Linda, on va parler des habitants de la ville de Bukavu qui sont appelés à s'approprier l'opération d'identification des ménages amorcée par la mairie à travers les trois communes en collaboration avec la commission diocésaine Justice et Paix, CDJP Bukavu. Cette opération est réalisée à travers les logiciels mairiebukavu.org. Pour ce faire, des agents de l'identification passe pour récolter toute information nécessaire en vue de faciliter cette opération dont la portée est de connaître les nombres exacts des habitants de la ville et de lutter contre l'insécurité.
Message du maire ad intérim de Bukavu, le professeur Augustin Uchogeza, lundi 16 décembre, au sortir d'une réunion qui a mis autour de la table le bourgmestre des trois communes, certains chefs de quartier et des agents de la CDJP Bukavu. Les participants à cette réunion ont évoqué différents défis qui ont impacté sur la vitesse de cette opération. C'est entre autres la résistance de la part de certains habitants et qui développent de préjugés autour de cette opération, la lenteur dans les chefs de certains identificateurs et une faible vulgarisation de cette opération. Cependant, les maires ad intérim de Bukavu, Augustin Uchogeza, rassurent les habitants que cette opération n'a rien à voir avec la politique, mais va plutôt aider la mairie à enrichir sa base de données.
Chaque ville, chaque commune doit savoir les nombres d'habitants, combien qui sont nés, combien qui sont morts, quel est le nombre des étrangers. Et donc ça nous fait un élément très indispensable pour connaître les mouvements de notre population. Sous d'autres cieux d'ailleurs, il y a des villes plus modernisées qui peuvent vous donner à temps réel les nombres de gens et ça nous aide aussi dans le cadre sécuritaire. Le message que nous lançons aux habitants de la ville de Bukavu, qu'ils soient calmes, qu'ils se laissent identifier, c'est très important. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui est du domaine politique, mais nous c'est uniquement avoir les chiffres réels et exacts de la population de la ville de Bukavu.
Il précise qu'à l'heure actuelle, seulement 83 000 personnes sont déjà identifiées dans toutes les communes de la ville de Bukavu. Pourtant, l'opération est presque à sa fin, d'où la demande aux habitants de ne pas traîner les pas, car ceux qui ont négligé vont subir la rigueur de la loi.
Avec vous, Omer Moudé-Kereza, nous allons changer de chapitre pour parler du renforcement des capacités des agriculteurs et autres acteurs impliqués du secteur privé sur la lutte contre les aflatoxines dans les maïs, arachides, sorgho et autres cultures en Provence du Sud Kivu et du Tanganyika grâce à l'utilisation d'Aflasaf RDC 01. C'est parmi les objectifs d'un atelier de formation technique de deux jours organisé à partir de lundi 16 décembre 2024 par l'Institut international d'agriculture tropicale IITA en faveur des agents étatiques et ceux du secteur privé. Ceci dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs, PKGL en sigle.
Le docteur Léon Nabahungu, coordonnateur du PKGL pour le compte de l'ITA, a précisé que l'activité vise à sensibiliser les participants sur le danger de la contamination de la aflatoxine pour la santé publique. Selon Espoir Birachuiro, technicien du laboratoire Aflasaf, il s'agit d'une sensibilisation efficace des agriculteurs sur le danger des aflatoxines pour la santé humaine et animale. Les informer sur le contrôle des aflatoxines en mettant l'accent sur l'utilisation d'Aflasaf RDC01. Il appelle les agriculteurs à protéger leurs cultures, particulièrement les maïs et les arachides, en utilisant l'aflasaf comme solution sûre et économique aux aflatoxines, un poisson qui peut nuire à la santé, retarder la croissance des enfants de moins de 5 ans et causer les cancers de foie.
On s'entend à ce que les participants à cet atelier, que leur capacité soit renforcée en termes de techniques ou de modes de gestion des aflatoxines, mais aussi et l'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir former tous les acteurs concernés sur les techniques de détection d'aflatoxines. toxines dans les cultures, mais aussi sur le protocole de production du produit Aflacef RDC 01, étant donné que ITEA doit remettre entre les mains du gouvernement la gestion de cet hôtel et de cette usine.
Et ont donné le go de cette activité. Le représentant du gouvernement provincial à ses assises et ministre provincial en charge de l'agriculture, Lugamia Bachizi Didier, a salué cette initiative qui renforce la vision du gouvernement de lutter contre la famine. Signalons que l'aflatoxine est un poisson produit par un champignon qui contamine jusqu'à 65% des cultures de maïs, de l'arachide et autres graines de melon comme les riz, les sorgho et le manioc, avec des conséquences néfastes sur la santé humaine et animale ainsi que sur l'économie. Cet atelier se déroule au campus Olusegun Obasanjo, abritant le laboratoire et usine Aflasaf à Kalambo en territoire de Kabaré.
Merci Omer Moudekereza et l'association des jeunes solidaires de Bukavu, AJSB en sigle, se rallie à l'idée de la réforme constitutionnelle telle que prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et expliquée par le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Bodji Sangara lors de son récent passage à Bukavu. Dans leur déclaration rendue publique le week-end, ces derniers indiquant que cette idée de révision ou du changement de la constitution est salvatrice au vu de nombreux défis auxquels le pays est confronté. Ces jeunes réitèrent leur soutien indéfectible au président de la République et au ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Bodji, pour sa proximité avec la population du Sud Kivu, mais également pour avoir expliqué à la population les différentes réformes envisagées par cette démarche du chef de l'État. Suivez ici un extrait de leur déclaration lui parlant d'eux.
Nous, membres de la jeunesse solidaire de Bukavu, réunis en ce jour, saluons et soutenons avec conviction l'initiative portée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, relative à la révision ou au changement constitutionnel. Cette initiative qui reflète la vision d'un Congo plus fort, plus uni et mieux préparé pour relever les défis du développement, trouve en nous des partenaires engagés et solidaires. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude et soutien indéfectible à Monsieur le Ministre d'État, Aimé Bodji Sangara, qui lors de sa récente intervention devant la population de Bukavu, en la salle Mater Dei de Mungu, a réaffirmé son engagement en faveur de cette vision du garant du bon fonctionnement des institutions. Son leadership, sa proximité avec la population et sa détermination à défendre les intérêts du pays nous inspirent et nous renforcent dans notre conviction que cette démarche constitutionnelle est essentielle pour construire un avenir meilleur pour toutes les Congolaises et pour tous les Congolais. Nous appelons tous les acteurs sociaux, économiques, politiques de notre pays à s'unir autour de cette noble initiative et à apporter leur contribution pour qu'ensemble nous puissions bâtir un Congo prospère, démocratique.
Avant de parler sport à 6h31, parlons de la députée provinciale Kinja Mwendanga qui a remis le week-end dernier des matériaux pour contribuer à la réhabilitation des quelques salles de classe du complexe scolaire Malkia situé au quartier Nkafu en commune de Kadutu. Cette assistance, constituée d'une quantité de sable et des sacs de ciment, a été remise par l'entremise de son premier suppléant Donatus Birindwa. Prenant la parole au nom de Kinja Mwendanga, Donatus Birindwa motive ses gestes par le fait que les infrastructures des bases sont un moteur de développement et c'est à ce titre que l'élu de Bukavu participe aux efforts visant la construction de cette école. On l'écoute.
L'honorable Kinja Mwendanga nous a déployé sur terrain à partir d'hier samedi pour réaliser certaines tâches qu'il nous a confiées. La première tâche a consisté à donner un don au complexe scolaire Malikia. Depuis les campagnes électorales, pendant cette période-là, elle a passé un temps dans l'une des salles du complexe Malikia. Maman Kinja n'a pas vraiment été satisfaite de la manière dont la salle était. Elle a promis qu'une fois passée comme députée, elle n'oubliera pas de venir aider un tout petit peu avec quelque chose qu'elle peut avoir pour que ces salles se trouvent dans une bonne condition. Et aussi, elle a été touchée à part la condition des élèves, comment ils étaient en train d'étudier dans une situation qui n'était pas confortable.
D'ailleurs, sur Avenue Mwangaza, toujours au quartier Nkafu, la députée Kinja Mwendanga a remis sa contribution pour la construction d'un escalier. Celle-ci est constituée de gravier et du sable, a précisé notre source.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
En sport, poursuite de la phase retour du championnat de la tente urbaine de football de Bukavu, première division. Un seul match était au programme hier lundi 16 décembre au stade de la Concorde de Kadutu. C'est le match qui a opposé la JS Mungu au FC Étoile de Recherche. Au terme de ces matchs, l'équipe de la JS Mungu s'est imposée sur tapis vert. En effet, Étoile de Recherche subit ses forfaits pour défaut de paiement des frais d'affiliation au classement provisoire dans les groupes. Groupe A, l'US Bilombé, est en tête avec 29 points. Dans le groupe B, la JS Mungu est en tête avec 31 points. Entre-temps, Ademola Lookman, l'attaquant nigérien de l'Atalanta Bergame, succède à son compatriote Victor au palmarès du joueur africain de l'année. La Zambienne Barbara Banda a décroché le titre chez les femmes et l'Ivoirien. Emers Fahim a été sacré meilleur entraîneur africain. Ce classement a été révélé hier lundi au cours d'une cérémonie des CAF. C'est donc le joueur de l'année et Ademola Lookman, joueuse de l'année Barbara Banda, entraîneur de l'année chez les hommes. Emers Fahim, entraîneur de l'année chez les femmes. Lamia Boumedi, gardien de but de l'année, c'est Williams. Et gardien de but de l'année, c'est Chiamaka. Et puis jeune joueur de l'année, Lamine. Jeune joueuse de l'année, Doha El Madani. Équipe nationale de l'année, Côte d'Ivoire. Équipe nationale de l'année chez les femmes, c'est le Nigeria.
L'actualité sous une autre facette pour votre meilleure compréhension des faits saillants qui ont marqué dans différents domaines de la vie. Radio Maïndéléo vous propose l'élément des reportages.
Je l'ai annoncé en titre, le député national Modekereza Namegabe Olive plaide pour la modernisation des infrastructures comme les routes, ports et aéroports afin de bénéficier de certaines opportunités dont bénéficient d'autres pays de la sous-région des Grands Lacs. En séjour à Dar es Salaam en Tanzanie dans le cadre des activités organisées par les corridors centrales, l'élu de Bukavu estime qu'il est temps pour les autorités congolaises de songer au développement du pays. Dans cet élément de reportage, l'élu de Bukavu revient également sur certaines de ses réalisations à la chambre basse du Parlement. Olive Mudekereza dans cet élément.
On est maintenant en vacances parlementaires. On a clôturé la session parlementaire de septembre et d'ici fin du mois, on sera à Bukavu. Au moment où je vous parle, je suis à Dar es Salaam dans le cadre du corridor central. Vous m'avez suivi à l'Assemblée nationale pour parler des questions des corridors. Soutenir notre économie, il faut construire nos infrastructures, le port de Kalundu, il faut construire le port à nos profondes de Banana, c'est au Congo central. Il faut construire nos aéroports, nos routes. C'est ça qui va nous permettre d'avoir de meilleurs corridors et être compétitifs. Je crois que l'Assemblée nationale aujourd'hui est en train de tenir compte de tout ce que nous proposons comme entrepreneurs. Pourquoi les pays limitrophes sont plus compétitifs? Les usines sont installées en Ouganda, au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, au Burundi, en Angola, l'Ouest. Il y a plus de 10 ans qu'on a proposé au gouvernement de créer aussi comme les autres pays de la région, être compétitif, avoir un interlocuteur, un guichet unique. Et tout ça, c'est ce que nous discutons à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai soulevé la question des infrastructures. Et si nous avons nos routes d'interconnexion interrégionale, c'est environ 7000 km. Si le gouvernement, comme le président a dit, va construire 7000 km, si on asphalte les 7000 km, vous pouvez maintenant quitter Bukavu, aller à Kinshasa. Et c'est comme ça qu'on va développer ce pays. Avant de le faire, il faut aussi créer des brigades d'entretien routier. Un niveleuse, un compacteur, un chargeur, des bennes. Vous le mettez à chaque 50 km. Permet à chaque fois, il y a un bourbier, le machine la passe en attendant qu'on continue. Parce que tu ne peux pas arriver à faire plus de 1000 km asphaltés dans une année. L'argent qu'on prélève dans les fonds miniers, il faut soit disponibiliser pour construire nos routes. On a dit on va créer notre compagnie Air Congo. Je suis en Éthiopie tout de suite. Il y a au moins plus de 100 avions stationnés à leur aéroport. Nous n'avons pas même deux ou trois. Comment voulez-vous un grand pays comme le Congo qui devrait prendre la place de la région? Nous sommes les derniers. Il n'y a pas de développement sans une économie qui tourne. Il faut terminer la guerre, construire le pays. Et il faut aussi avoir cette relation régionale. Vous savez, les intérêts économiques unissent les gens. C'est comme nos protégeurs nous disent aider. Il y a trois pays, le Rwanda, le Burundi. Si si on exploitait cela, peut-être ça pouvait nous aider à évoluer dans le développement. Nous n'avons pas pris de 3% des routes asphaltées sur 153 000. Nous sommes les derniers, moins de 3% des kilomètres asphaltés. Mais nous, les députés, nous plaidons pour ça. On aura l'occasion, en vacances parlementaires, d'échanger avec la population. Nous espérons quand le président de l'Assemblée nationale sera en vacances, on va aussi avec la population, la notabilité, faire des propositions. Comment développer notre province? Comment ils peuvent nous aider, nous les députés du Sud, qui vous pour avancer dans les plaidoyers, nous accompagner dans toutes les démarches auprès de tous les ministères? Qu'est-ce qu'on fera pour notre agriculture, pour que notre mine ne nous bénéficie pas seulement aux Chinois ou les autres, que la mine construise notre province, et de faire aussi une commission parlementaire, venir à Bukavu voir les problèmes de construction anarchique, proposer comment on peut construire la province du Sud, qui vous créez aussi d'autres communes, Urbano, Rural, Kasha et Panzi. Nous avons déjà commencé ces démarches, il y a des réponses, mais comment lui, en tant que président de l'Assemblée nationale, ça peut passer facilement. Comment rembourser l'argent des gens qui ont perdu dans des microfinances plus de 60 millions de dollars? J'ai fait une lettre écrite, l'Assemblée nationale va le transmettre, et je crois que s'il y a l'appui du président de l'Assemblée nationale, nous sommes de l'avis de ce qu'ils disent, mettons-nous ensemble, et c'est sur base de ça qu'on peut développer ce pays.
La revue de presse. Radio Maïdélou 4 vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Le rendez-vous manqué de Luanda entre le président congolais Félix Tshisekedi, le rwandais Paul Kagame et l'angolais João Lourenço dans le cadre du processus de paix fait la une de plusieurs journaux parus hier lundi à Kinshasa. Alain Kabika nous met en musique la revue de presse.
Le phare qui ouvre le bal titre en sa manchette, processus de Luanda, Kagame crée l'impasse. Ce quotidien fait savoir qu'après l'échec constaté de la tripartite, qui devrait se tenir le dimanche 15 décembre dans la capitale angolaise Luanda, entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, autour de leur collègue angolais João Lourenço, en sa qualité de médiateur, la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner a donné la position de Kinshasa face à cette énième impasse que vient de créer le chef de l'État rwandais. Le quotidien explique que c'était au cours du briefing press qu'elle a co-animé avec son collègue de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, sous le thème focus sur les processus de paix de Luanda. Comme il fallait s'y attendre, ajoute ce portail, tous les regards des Congolais étaient tournés vers l'Angola, car des informations en circulation faisaient état des obstacles qui bloqueraient les processus des sorties des crises entre les parties congolaises et rwandaises. À ce sujet, Info 27 cite la ministre des Affaires étrangères de la RDC qui souligne l'absence du Rwanda à la réunion tripartite du dimanche 15 décembre à Luanda, qui devrait pourtant constituer un jalon décisif vers la fin des hostilités dans l'est de la RDC, n'a pas surpris la partie congolaise. Selon la patronne de la diplomatie congolaise, il y avait un manque de bonne foi de manière perpétuelle du côté rwandais. Et finalement, rapporte ses portails, entre la paix et les 1-23, le Rwanda a choisi les 1-23. Pour la RDC, indique Info 27, négocier avec le 1-23 présente une ligne rouge à ne pas franchir. Les potentiels précisent que la tripartite visait à aboutir à la signature d'un accord de paix pour mettre fin aux hostilités entre la RDC et le Rwanda et au retrait immédiat des troupes rwandaises sur les sols congolais. Toutefois, révèle ce site, à l'absence de Paul Kagame, une réunion bilatérale s'est tenue entre Tshisekedi et João Lourenço sur les enjeux sécuritaires. Citant des sources de la présidence congolaise, Congo Nouveau indique que les présidents Tshisekedi et Lourenço ont fait les constats d'échec de la tripartite voulue pour la médiation après l'annulation des participations de la délégation rwandaise. Selon Echo News, l'absence remarquée de Paul Kagame dimanche au sommet de Luanda en Angola relance les interrogations sur la sincérité du Rwanda dans les processus de paix en RDC. Alors que Kinshasa multiplie les efforts diplomatiques, fait savoir ce tri-hebdomadaire, Kigali semble jouer la carte de la mauvaise foi, fragilisant davantage les espoirs d'une paix durable dans l'est de la RDC. Quoi qu'il en soit, estime ce tabloïd, Kinshasa est attaché à la solution diplomatique pour amener la paix dans la partie est du pays. Africa News signale pour sa part que l'ancien président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, en sa qualité de facilitateur du processus politique de Nairobi, a été invité à participer à la rencontre bilatérale de dimanche 15 décembre à Luanda entre les présidents João Lourenço et Félix Tshisekedi. Clôturons avec les quotidiens qui rappellent que le Rwanda justifie la présence de ses troupes sur les sols congolais par la présence des rebelles des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR qui, selon Paul Kagame, constitue une menace pour son pays.
Nous avons communiqué dans cette édition, le bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu invite tous les honorables députés provinciaux à la séance plénière prévue ce mardi 17 décembre 2024 à 10h dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale. Ordre du jour, adoption de l'ordre du jour, présentation et adoption des rapports des vacances parlementaires allant de juillet à septembre 2024, questions orales avec débat adressé à son Excellence Monsieur le ministre provincial en charge des travaux publics, de l'urbanisme, habitat, des affaires foncières et des hydrocarbures, honorable Lunanga Anani signe ses communiqués. Il est 6h44 minutes, c'est la fin de cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Vous l'avez suivi 12 jours déjà qu'aucun véhicule n'est arrivé à Mwenga Centre suite au délabrement avancé de la route nationale numéro 2. Les véhicules sont bloqués dans des bourbiers à différents endroits, dont Monzélé, Kisela et Kibumba. Dans la zone de santé Miti-Moresa, la deuxième phase de vaccination contre la varole du singe Monkeypox démarre ce mardi 17 décembre 2024. Cette campagne va se dérouler dans les 22 aires de santé qui composent cette zone pendant 10 jours. Dans la page éléments des reportages, vous avez suivi le député national Olive Moudé-Kereza qui plaide pour la modernisation des infrastructures afin de bénéficier de certaines opportunités comme d'autres pays de la sous-région des Grands Lacs. C'est complètement fini. Hélène, vous direz rester mon nom, Emile Mouindo, sur la mise en onde. Je voulais suivre la même édition dans sa version Swahili avec Ricky Ombeni. Une autre édition, c'est à 12h juste. Au revoir.